Tristan Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé par publier deux romans, et en 2011 sont parus deux livres de philosophie, « Nous, animaux et humains, actualité de Jeremy Bentham », et ce gros volume dont nous allons parler avec vous, « Forme et objet », sous-titré « Un traité des choses ». Est-ce que ces deux livres de philosophie sont directement issus de votre formation universitaire ?
En partie oui, mais ce ne sont pas vraiment des livres qui correspondent au canon universitaire. J'ai eu un parcours scolaire universitaire classique, j'ai fait une thèse qui était à peu près dans les normes. Le livre qui sort, en tout cas Forme et objet, un traité des choses, est un livre un peu plus fou et qui reprend des cours que j'ai faits à l'université, mais disons en forçant le trait et en sortant un peu en sortant de la norme. De la norme actuelle de la production universitaire.
Est-ce que ces deux livres de philosophie sont directs comment s'articule en fait ce passage entre votre écriture philosophique et votre écriture fictionnelle ?
Alors, c'est un problème pour moi, mais il n'y a absolument pas d'articulation, d'articulation réfléchie, pensée, de ma part. C'est un moyen de maintenir une sorte de schizophrénie où, personnellement, j'ai décidé de mettre d'un côté... d'un côté la fiction et de l'autre côté la théorie, en essayant de les séparer aussi longtemps que je pourrais. Je suis pas persuadé d'arriver à les séparer longtemps, mais j'essaye de le faire pour moi. On s'invente toujours un régime qui permet d'écrire, et moi je pense que j'arriverais pas à écrire si je distinguais pas les deux, tout simplement.
Effectivement, je ne trouve pas trace de la pensée puissante de Forme et objet dans vos deux livres de fiction. Par contre, il peut y avoir un lien entre Mémoire de la jungle, votre dernier livre de fiction chez Gallimard, et Nous, animaux et humains. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y aura une application fictionnelle de votre pensée métaphysique ?
Non, j'ai toujours essayé de fuir, tout ce qui était de l'ordre de l'application en littérature d'une théorie philosophique. Mon cauchemar absolu, d'une certaine manière, c'est Sartre, c'est Les chemins de la liberté écrit après L'être et le néant, et c'est l'illustration inutile. C'est-à-dire on prend les idées et puis on leur donne corps, on leur donne un prénom et on les met dans l'époque et on appelle ça un roman. Donc ça, j'espère ne jamais le faire. À mon sens, en tout cas volontairement, il n'y aura jamais de roman qui corresponde à cette expérience de théorie qui est Forme et objet, qui, à mon sens, se suffit. S'il y a des correspondances entre les romans que j'écrirai plus tard et ce livre-là, ce sera malgré moi. J'aime bien cette idée du malgré moi. Ça sortira malgré tous les barrages que je peux essayer de poser.
L'exemple de Sartre a été à ce point traumatisante ?
Non, par ailleurs, j'aime beaucoup le Sartre philosophe, le Sartre romancier beaucoup moins, mais c'est pas le seul. Disons qu'il y a un tropisme français vers un type de liaison entre la littérature et la philosophie que je n'aime pas, à part chez Rousseau peut-être, à peu près, et encore, je suis pas un grand lecteur de la Nouvelle Héloïse, chez Sartre, chez Camus, mais aussi au fond chez des gens qui ont plutôt essayer de mêler les deux choses, chez Blanchot, chez Derrida, même chez Bataille par exemple. C'est pas des régimes de définition de la littérature et de la philosophie qui me conviennent. Donc petit à petit, j'ai décidé d'adopter une attitude en philosophie et une attitude en tant que romancier, et essayer de maintenir cette schizophrénie et de l'assumer le plus possible.
Alors parlons philosophie, Tristan Garcia, avec Forme et objet, un traité des choses qui est paru dans l'excellente collection métaphysique au PUF. J'ai envie de vous demander d'où provient cet intérêt, cette manière de penser le monde par ces choses, les choses du monde. Je lis notamment ce petit paragraphe dans votre introduction, je vous cite. « D'abord, nous n'avons pu faire autrement parce que nous nous sommes, pour ainsi dire, pris de réflexion pour les choses depuis l'adolescence, et tout ce qui se montre nous apparaît désormais sous le masque de sa choséité. Mais cette raison ne vaut qu'a posteriori, et pour ce que nous avons acquis, malgré nous, un certain tour d'esprit. Elle est singulière. » J'ai été étonné de ce paragraphe dans votre introduction, où on remonte à un choix d'adolescent, et vous m'avez dit tout à l'heure, hors micro, que ce n'était pas votre thèse de philosophie. Et du coup, je suppute qu'il y avait déjà ce choix singulier fait longtemps à l'avance, peut-être même antérieurement à vos études universitaires.
Oui, moi j'ai commencé à penser ce livre avant même de lire de la philosophie. Il y a des phrases dans le livre qui datent de quand j'avais, je sais pas, je dirais 16 ans, et il y en a qui datent de quand j'avais 30 ans. Et j'aime bien ce palimpseste que moi seul peux reconnaître dans le livre. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de rupture dans le style, mais c'est un livre qui est écrit sur une quinzaine d'années et que j'ai commencé tout à fait naïvement, innocemment, adolescent, avant de lire. D'entamer mes études de philosophie, de lire Descartes ou Hegel comme étudiant. J'étais très marqué dès l'adolescence. J'ai souvent une phrase de Baudelaire qui me revient en tête, où Baudelaire dit « L'universel est égal à son vaste appétit ». Et j'avais vraiment cet appétit adolescent, une sorte d'appétit universel, de curiosité universelle, pour toutes les choses en tant que choses. Et l'impression d'être rongé. Par une sorte de contradiction qui faisait que, à mesure que je vieillissais, j'étais obligé de me spécialiser, de connaître plutôt certaines choses que d'autres, de renoncer notamment aux études scientifiques, par exemple. Et j'ai essayé de maintenir pendant une dizaine d'années la possibilité d'une philosophie comme possibilité de penser toutes les choses et d'avoir un régime de discours qui me permette de penser tout et de savoir à quoi je devais renoncer, à quel type de philosophie. Tout le livre est fait pour moi pour renoncer à un certain type d'universalisme surplombant, notamment hegelien, mais de pouvoir continuer à penser quelque chose qui serait présent en toute chose, et de construire un modèle pour ça, qui permette de satisfaire mon appétit adolescent. Et de tout le livre est une réaction à la spécialisation du savoir, et à l'injonction moderne de « choisissez ce que vous voulez connaître », et de l'expertise. C'est un livre contre l'expertise, contre la spécialisation, mais qui ne le fait pas naïvement, c'est-à-dire qu'il pense bien qu'on ne peut plus avoir l'universalisme qu'on avait à la Renaissance au XIXe siècle. Qu'il faut un autre type de pensée pour pouvoir s'emparer encore de toute chose.
Juste quelques paragraphes avant cette... Dans votre introduction, avant ce paragraphe, vous parliez justement de votre adolescence et de ce choix que vous venez d'exprimer. Je trouve cette phrase, et j'imagine que cette phrase était presque un peu votre... quelque chose qui trônait dans votre tête comme voilà, l'absolu que vous vouliez atteindre. Cette phrase, c'est celle-ci. Je vous cite à nouveau. « Ce qu'une philosophie pose en premier en tant qu'objet de sa pensée demeurera pour toujours la forme de son objet. » J'ai essayé de retourner cette phrase dans un peu tous les sens, je l'ai trouvée magnifique. Cette affirmation m'a vraiment troublé. Et du coup, j'imagine que c'est presque une phrase inaugurale pour vous. Est-ce qu'elle vous a obligé, est-ce qu'elle vous a contraint à vous tourner vers une ambition maximale de la pensée, c'est-à-dire la métaphysique?
Oui. Cette phrase, pour moi, à un moment j'utilise la métaphore, c'est exactement ça pour moi. J'utilise la métaphore de l'empreinte en éthologie. L'empreinte dans la vieille éthologie, la vieille école éthologique chez Konrad Lorenz, etc., c'est le fait que ce qu'un animal, une oie par exemple, voit en premier au moment de sa naissance, elle va le considérer comme étant sa mère. Et on a fait plein d'expériences où on enlève la mère de l'oie et à la place on met un être humain et voilà, après c'est fichu. À vie, c'est l'être humain qui sera considéré comme étant le parent par l'oie. Et j'aime beaucoup cette idée parce que c'est exactement ça pour moi. Il faut être conscient. Faire un geste inaugural en philosophie, c'est être conscient du fait que on va se laisser imprimer par un objet en premier, et on peut faire ce qu'on veut, quelques types de constructions spéculatives qu'on utilise après, on sera toujours marqué par cette première empreinte qui sera la forme de tout ce qu'on pensera. Et donc c'est très important pour moi de savoir qu'est-ce qu'on choisit de penser en premier. Et le geste inaugural de mon texte, c'est de dire je vais choisir en premier, c'est pas un choix, c'est pour ça qu'il y avait la citation sur l'adolescence avant, il se trouve que je suis contraint de choisir en premier, non pas un type de rapport au monde, la pensée, la connaissance, la subjectivité, l'esprit, mais les choses. Je sais que tout va m'apparaître sous le masque de la choséité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais faire ça, je peux m'inventer des dispositifs, tout me reviendra sous forme de choses. Donc, essayons de le penser clairement, au moins. Essayons de savoir distinctement ce qu'on appelle quelque chose. Et c'est ça mon geste inaugural. Et c'est comme ça aussi que je lis en général l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire, par exemple, je suis toujours très troublé dans la phénoménologie chez Husserl. On résume toujours Husserl par son slogan « le retour aux choses mêmes ». Mais le geste inaugural d'Husserl, l'empreinte d'Husserl, c'est de prendre en compte le rapport au monde. la conscience. Et donc tout reviendra à Husserl sous forme de rapport au monde. C'est-à-dire il peut viser les choses, il peut viser la table que j'ai devant moi, comme ce qui imprime en premier sa pensée, c'est le rapport à cette table, c'est la conscience intentionnelle, la conscience que j'ai de cette table, tout lui reviendra d'une manière ou d'une autre sous la forme de cette conscience. Et la chose s'effacera derrière cette conscience. Il peut courir derrière, elle sera inaccessible. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est de dire, ben, en premier, je vais être imprimé par la chose. Le prix à payer pour ça, hein, évidemment, c'est que tout ce que je penserai, si j'essaye de penser ma conscience, ma personne, moi-même, tout va me revenir sous forme de choses. Eh bien, je vais essayer de le faire honnêtement. Je vais essayer de le faire jusqu'au bout. Est-ce que je peux penser ? Est-ce que je peux me penser en tant que chose ? Est-ce que je peux penser ma société, l'histoire, etc., comme des choses ?
Et donc, penser les choses directement plutôt que de penser l'accès aux choses.
Oui, c'est vraiment le geste principal du livre, qui n'est pas un geste solitaire, qui est un geste qui s'inscrit dans un courant de pensée, à mon sens, qui marque le début du XXIe siècle en philosophie. On le trouve dans une école qui est essentiellement anglo-saxonne pour le moment, qu'on appelle le réalisme spéculatif. Des penseurs comme Graham Harman, comme Ian Hamilton, ou en France comme Quentin Meillassou, dont le seul point commun est le refus de ce qu'ils appellent le corrélationnisme. C'est-à-dire l'idée que, en premier, ce qu'on aurait à penser en premier, c'est la corrélation entre la réalité et, disons, allez, le rapport à cette réalité, la conscience que nous avons de cette réalité, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans ces pensées anticorrélationnistes, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tout ce qu'on appelle, j'en parle un petit peu dans l'introduction, les ontologies plates actuelles, qu'on retrouve chez Bruno Latour, qu'on retrouve dans toutes les pensées des choses, des objets ou des réseaux actuels, et à mon sens, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'anthropologie, chez Philippe Descola, par exemple. Donc, de ce point de vue, je me sens de mon époque, même si c'est dans une pensée encore marginale, mais je pense que mon geste singulier rejoint un geste d'époque qui est une manière de clore le XXe siècle, qui a été un siècle qui a effacé les choses derrière notre rapport aux choses, notre rapport linguistique, notre rapport historique, notre conscience des choses. Et donc, j'espère que mon geste très singulier rejoint quelque chose peut-être de général qui est en train de s'esquisser dans l'histoire de la pensée.
Vous avez prononcé un mot magique, une ontologie d'un monde plat. Un monde plat, donc là c'est un concept qui revient tout le long de votre livre, Tristan Garcia, dans Forme et Objet, un traité des choses. J'ai senti que cette ontologie d'un monde plat, c'était, enfin je l'ai vu comme une astuce, un moyen technique pour apporter des solutions nouvelles aux problèmes récurrents et anciens de la métaphysique.
Oui, c'est ça. Alors... On peut le concevoir comme une astuce. Évidemment, astuce, il y a quelque chose de...
Dans le bon sens du terme, hein. Pas une astuce, un attrape-gogo, pas du tout, pas dans ce sens-là du tout. Hein.
Je comprends tout à fait. Je parle parfois de dispositif ou d'opérateur. Aplatir, c'est une opération de la pensée, à mon sens. Alors, pourquoi aplatir ? Aplatir, ça signifie, à mon sens, le fait qu'il est possible, c'est une possibilité de la pensée, de désintensifier le monde. C'est-à-dire de prendre le monde tel qu'il nous vient et lui enlever, un, toute forme d'intensité. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de moins vrai, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de moins beau. On enlève donc les valeurs, mais on enlève aussi l'extension. C'est-à-dire qu'on arrête de penser les choses comme étant des parties les unes des autres. Et à la suite de cette expérience de pensée, pour moi, aplatir le monde, c'est arriver au point où la pensée, qui est un point limite de pensée, à mon sens c'est vraiment une expérience de pensée, où on peut penser la chance égale de toute chose, de telle sorte qu'on arrive à un plan d'être, où aucune chose n'est plus qu'une autre, aucune chose n'est moins qu'une autre. Que ce soit une chose imaginaire, une chose réelle, une chose fictive, une partie de chose. On arrive à ce point où la partie, par exemple mon doigt, n'est pas moins que le tout, que ma main, mais n'est pas plus non plus. Où le mot main n'est pas moins que la réalité, que la main elle-même, etc. etc. Et ce qui m'intéresse, c'est de pousser à bout cette expérience de pensée et de montrer qu'elle a un sens. À mon sens, c'est l'expérience de pensée fondatrice d'une nouvelle métaphysique qui permet de reconquérir ensuite les différences entre les objets.
Mais comment, du coup, en aplatissant le relief, ne pas tomber dans le piège d'un relativisme absolu et vous échapper justement à ce piège, parce que vous en parlez de ce piège qui rendrait du coup toute chose égale.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'essaye, au fond, dans tout le livre, de distinguer l'égalité de l'équivalence. Le relativiste, c'est celui qui se trompe parce que c'est celui qui confond l'égalité avec l'équivalence. L'équivalence, c'est la possibilité de comparer deux choses et de considérer que ces deux choses comptent toutes les deux pour un. Que donc, on peut ramener ces deux choses qui sont différentes a un plan commun et qu'on peut dire que l'une vaut l'autre. Or, moi, ce que j'essaie de construire, c'est une égalité sans équivalent. J'essaie de construire un plan de pensée où toute chose est seule. Ce qui est très important pour moi, c'est de penser que ce que j'appelle la chance ontologique de toute chose, dans le monde plat dont on a commencé de parler, c'est le fait qu'il est possible de considérer que n'importe quoi, n'importe quelle chose, est une chose, est quelque chose, là où elle est seule au monde. Et là où elle est seule, elle est incomparable. J'essaye de penser le fait que la table que nous avons devant nous est quelque chose à partir du moment où elle est seule chose. C'est là où elle est, c'est lorsqu'elle est seule au monde, c'est lorsque tout ce qu'il y a autour d'elle, tous les autres objets sont indifférenciés, peu importe, qu'elle est quelque chose. Et donc là où j'essaye d'éviter le relativisme, c'est en pensant que, contre le relativiste, je ne peux pas juger qu'une chose en vaut une autre, puisqu'il n'y a qu'une chose à la fois. Et s'il n'y a qu'une chose à la fois, j'arrive à l'idée que ce qui construit la chose, c'est la solitude. La chance ontologique d'une chose, c'est la possibilité d'être seul. Ce qui est le contraire exact de la pensée relativiste, qui pense que là où les choses sont égales, les choses sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on peut remplacer une chose pour une autre, qu'on peut les échanger. Moi, ce que j'essaye de défendre, c'est pas l'équivalence, c'est ce que j'appelle la chance. C'est-à-dire ce qu'il y a d'irréductible en toute chose. Qu'une chose soit fausse, qu'elle soit morte, etc. Il y a quelque chose en elle d'irréductible qui fait qu'on ne peut pas la sortir du monde. Et ce quelque chose, c'est sa possibilité d'être seul et de résister. Et tout ce que j'essaye de penser tient à ça, au fond, qui est arriver à préserver par la pensée ce qu'il y a d'indestructible en toute chose, quelle qu'elle soit.
Votre livre compte deux parties inégales, une plus courte que longue, une plus courte que l'autre. La première partie, c'est livre 1, formellement, elle est essentiellement théorique, dans un sens affirmative également. Et ça commence par un concept, le concept de n'importe quoi, un concept assez étonnant, à qui vous faites dire enfin, des choses incroyables, ça fonctionne. Je n'ai pas réussi à casser votre concept pour dire non, il ne fonctionne pas. J'ai trouvé étonnant que le concept de n'importe quoi fonctionne. Et je me suis posé la question sur la fondation du concept de n'importe quoi. Est-ce que le concept de n'importe quoi existe que par la pensée de la chose ?
Oui. C'est un concept pour moi qui est quasiment stratégique. Si je parle de n'importe quoi, c'est parce qu'en commençant ce qui est ma logique, c'est-à-dire la première partie, ce qui s'appelle formellement, qui correspond à une forme de logique avec des propositions thétiques qui s'enchaînent les unes aux autres, si je commence par le n'importe quoi, c'est parce que j'ai l'habitude en fait, de constater que une des philosophies dominantes au XXe siècle, qui est la philosophie analytique, la logique anglo-saxonne, brandit toujours la menace du n'importe quoi. En effet, le point commun à la majorité des pensées analytiques, c'est de considérer que il y a un principe qu'on ne peut pas refuser, c'est le principe de non-contradiction. Pourquoi ? Parce que si on accepte la contradiction, d'une contradiction s'ensuit n'importe quoi. C'est-à-dire que si je dis qu'il pleut et qu'il ne pleut pas, je vais pouvoir tirer n'importe quelle conséquence du fait qu'il pleut et il ne pleut pas. Donc le n'importe quoi, c'est généralement le spectre de toute pensée logique qui vous dit, voilà, il y a au moins un principe que vous êtes obligé d'accepter, sinon, alors c'est n'importe quoi. Il y a n'importe quoi. Et moi, j'essaye de retourner en disant, vous finissez par le n'importe quoi, que vous brandissez comme un spectre de la pensée. Au contraire, il faut commencer par le n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut se donner n'importe quoi et se dire, maintenant que j'ai n'importe quoi, comment est-ce que je peux penser, comment s'organise ce n'importe quoi ? Comment est-ce que je peux penser une détermination minimale de ce n'importe quoi qui fait que s'il y a n'importe quoi, je peux y trouver quelque chose ? Comment est-ce que je passe de n'importe quoi, qui est la figure du chaos pour moi, à quelque chose ? Au moins quelque chose.
Oui, parce que vous ne terminez pas par la figure du n'importe quoi. C'est-à-dire que le concept du n'importe quoi arrive dès le début théorique, c'est-à-dire on termine l'introduction, on a vos intentions, on commence immédiatement par le n'importe quoi. On aurait pu s'attendre à ce que vous finissiez par le concept du n'importe quoi, mais non, du coup, un des concepts centrales, c'est le début, quoi. C'est tout de suite, vous affirmez, je ne pourrais pas trouver dans le monde quelque chose qui serait n'importe quoi. Vous permet-il de circonscrire la chose en la poussant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qui ne peut pas être une chose ?
Oui, exactement. Le but de ce concept de n'importe quoi, c'est de construire un concept de chose le plus libéral, le plus ouvert possible. C'est de faire en sorte qu'effectivement, n'importe quoi puisse entrer dans une chose. Que je ne puisse pas refuser l'entrée à la chose, si j'étais le videur de la chose, que je ne puisse pas lui refuser l'entrée à quelque client que ce soit. Tout ce qui veut être quelque chose, tout ce qui peut être quelque chose, l'est. C'est ça le principe de départ de ce que je fais. Et donc, effectivement, mon point de départ, ça va être de dire comment construire un modèle de pensée où n'importe quoi est quelque chose, qui est donc une manière de prendre à rebours les logiques modernes, les logiques contemporaines. Et c'est ça qui me permet, en effet, à mon sens, de construire la chose la plus large possible. Mais la chose la plus large possible, ça veut dire la chose aussi la plus indéterminée possible. Une chose qui a le moins de détermination possible, de manière à ce que le plus possible puisse entrer dans cette chose, puisse être cette chose. Il y a un seul repoussoir de ma pensée, qui est le point aveugle de la pensée par rapport à ça. Ce que je refuse, c'est ce que je vais appeler la compacité. Et la compacité, ou le compact, c'est une chose qui va être refermée sur elle-même, qui revient sur elle-même.
Vous faites de ce concept de n'importe quoi, vous en faites une chose tout de même. Et là, vous écrivez, pour autant, n'importe quoi n'est pas rien, bien au contraire. N'importe quoi, c'est-à-dire également ceci ou cela ou toute autre chose, est quelque chose. Vous en arrivez à faire quelque chose de circulaire, le contraire de la compacité, quelque chose de circulaire qui revient sur lui-même et il y a un basculement qui s'opère.
Exactement. De ce point de vue, la chose, pour moi, est l'opérateur minimal qui permet de faire la différence entre n'importe quoi et le monde. La chose, c'est ce qui décolle n'importe quoi de n'importe quoi. C'est ce qui fait que n'importe quoi étant quelque chose, une chose va être dans le monde et non pas une chose va être n'importe quoi. La chose, c'est ce qui permet pour moi de faire cette différence et de décompacifier le n'importe quoi qui est la figure du chaos. C'est-à-dire que je pense qu'on appelle quelque chose l'opérateur minimal de détermination, de différence, qui à partir de n'importe quoi permet de penser qu'il y a quelque chose, donc qu'il y a quelque chose dans le monde. Donc qui permet de faire la différence entre ce qui entre dans la chose, n'importe quoi, et ce dans quoi la chose entre, qui est le monde. Et la chose est le nom qu'on donne à l'opérateur de différence minimale entre l'un et l'autre. C'est ce qui fait qu'il y a une différence minimale entre n'importe quoi et le monde.
Oui, parce que à la fin de l'utilisation de vos concepts de n'importe quoi, vous en arrivez là. On ne peut, au fond, empêcher quoi que ce soit d'être tout simplement quelque chose, même si c'est quelque chose d'illusoire, une chimère de l'esprit humain, un mirage.
Oui. Je pense en effet, il y a dans tout le début du livre un mélange de logique et en même temps, je dirais, de diagnostic historique. Le diagnostic historique, c'est qu'il y a une chosification progressive, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement historique vers le fait de considérer n'importe quoi comme quelque chose. Qu'il y a un mouvement qui mêle la laïcisation, la perte du sacré, la perte de tabou, le refus de conditions transcendantales qui sortiraient des choses elles-mêmes, qui mêle la production d'objets matériels, d'objets techniques, la standardisation de cette production, la prolifération des objets, etc., etc. Et donc à partir de ce diagnostic historique, j'essaye de dire il y a, en fait, on s'est trompé en faisant massivement le procès de l'objet au XXe siècle, en comprenant par objet marchandise et en faisant le procès de la marchandisation, en disant « Ah, c'est terrible, il y a un processus de décivilisation, en fait, à l'intérieur même de la civilisation, qui est que nous transformons tout en objet, et en transformant tout en objet, nous perdons nos valeurs. Hein, nous perdons évidemment l'humanité, le respect de la personne, la dignité, ce qui aboutit à des slogans tels que « Ceci ou cela n'est pas une marchandise, ceci ou cela n'est pas un objet. » J'essaye de dire « Non, ça, c'est jamais la bonne position de la pensée. Le rôle de la pensée, c'est au contraire d'aller plus vite. » Que l'économie. C'est d'aller plus vite que l'objectivation, que la réification, et c'est de montrer qu'au fond, le problème de la marchandisation, c'est qu'elle ne va pas assez loin. La marchandisation ne permet pas de tout mettre sur un même plan, ne permet pas de penser l'égalité des choses. Et le but de la pensée, c'est d'accélérer la chosification et d'arriver à prendre de court, à être plus royaliste que le roi et plus économiste que l'économie, et arriver à penser ce point où effectivement, n'importe quoi peut être quelque chose. Et il y a pour moi un mélange de gestes métaphysiques et de gestes politiques là-dedans. De manière de dire, arrêtez de vouloir dresser des barrières face à une sorte d'épidémie des choses en défendant quelque chose que vous ne pourrez pas défendre, qui est un statut d'exception de l'être humain, un statut d'exception de la personne, j'en sais rien moi, de l'amour, d'un dieu, du sacré, etc. Si vous voulez reconstruire quelque chose comme une personne, un statut de personne, si vous voulez reconstruire quelque chose comme une humanité ou de la dignité, vous devez le reconstruire sur le fond d'une égalité radicale des choses ou Ben, une personne humaine, ça n'est pas moins, ça n'est pas plus une chose qu'un animal, qu'une partie d'animal, qu'un mot, qu'un tiers de mot, et vous devez le penser jusqu'au bout. Donc plutôt que de résister à la chosification, le but du livre est de montrer qu'il faut l'accélérer.
Je vais reciter la même phrase. Je vous recite. On ne peut, au fond, empêcher quoi que ce soit d'être tout simplement quelque chose, même si c'est quelque chose d'illusoire, une chimère de l'esprit humain, un mirage, illusoire, chimère de l'esprit humain, un mirage. Pourtant, votre traité ne va pas dans cette direction. On ne va pas vers la chimère, on ne va pas vers les mirages. Je n'ai pas rencontré d'OVNI. Et en lisant cette phrase qui est à la page 32, au début, je m'attendais à ça.
Il y a deux régimes très différents dans le livre, entre la première partie, qui est la partie qui permet l'implosion ontologique, où n'importe quoi va être considéré également, et où donc il va y avoir une place, une dignité ontologique égale qui va être accordée à la chimère, au mirage, à l'imaginaire, à la fiction et au réel. Et il y a une deuxième partie qui peut apparaître, je pense, dans certaines lectures, comme une réaction, comme une partie réactionnaire, où on va regagner un ordre, en fait, un ordre des objets. On va reclasser les objets, et donc effectivement, on va aller faire une forme de réalisme, au contraire, dans la partie objective. On va essayer de comprendre quels sont les rapports, l'ordre des objets, la manière dont on classe les objets en espèces, en genre, en âge, en classe, et qui peut être lu, je sens ça dans la question, je pense que je suis d'accord d'une certaine manière, comme une réaction, comme s'il y avait un moment d'implosion, de folie, et en même temps d'acceptation de l'égale dignité ontologique du fictif et du réel, ou du soi-disant fictif et du soi-disant réel, d'un point de vue formel, mais qu'après il y avait un geste de retrait, qu'on disait oui, mais ça c'est valable formellement, mais objectivement par contre on reclasse les objets, on retrouve un ordre, et d'une certaine manière on est bien rassuré. Ceci dit, de mon point de vue, c'est pas comme ça que je pense l'articulation des deux parties dans le livre. Je la pense plutôt comme l'articulation de deux axes où il y en a pas un qui prime sur l'autre. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en gros, pour penser la réalité, il faut sans cesse avoir une sorte de pensée horizontale, qui est la pensée de la platitude, de l'égalité, où chaque chose, imaginaire, réel, chimère ou réalité, est la même qu'une autre, et il faut conjointement avoir une sorte d'axe vertical, hiérarchique, en fait, des choses, où les choses qui deviennent des objets, dans ces cas-là, sont classées, sont donc en classe, en genre, en espèce, etc., et où on retrouve des structures du réel. Des structures, donc une forme de rigidité, donc une forme de différenciation entre le réel, la fiction, donc une forme de dégradation ontologique du fictif qui devient moins puissant que le réel objectivement. Mais j'essaye de tenir dans tout le livre le fait qu'il n'y a pas de supériorité l'un sur l'autre, il n'y a pas d'antériorité, c'est-à-dire on ne commence pas par un geste très libéral où on met tout sur le même plan pour ensuite réorganiser les choses. Ça c'est structuré comme ça dans le livre parce qu'il y a un ordre narratif, il y a un ordre discursif du livre, mais c'est plutôt une manière de suggérer le fait que pour penser, toute pensée doit être capable de faire les deux, en fait, alternativement. Et de conditionner l'un par l'autre, et en même temps de ruiner l'un par l'autre, et de passer de l'un à l'autre. Toute pensée doit être capable d'avoir un regard, le regard de la platitude, et en même temps le regard de la verticalité, de la hiérarchisation, de la classification des objets.
Parce qu'effectivement, avec votre concept du n'importe quoi, vous le dites, le n'importe quoi est ce qui est le plus plat. Le n'importe quoi, c'est ce qui oblige au plat, à la platitude la plus grande. Néanmoins, permettez-moi d'insister, quelques pages après, je vous recite, « Le n'importe quoi est tout simplement le plan d'égalité de ce qui est réel, ce qui est possible, ce qui est inexistant, ce qui est passé, ce qui est impossible, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mauvais. Peu importe, il s'agit de la possibilité. » Et dans votre traité, donc dans la seconde partie dont vous venez de parler, puisqu'il y a la première partie formellement, là on en est à la première partie formellement, il y a la deuxième partie objectivement qui fait à peu près les deux tiers de l'ouvrage. Dans cette partie donc objectivement, cette seconde partie, elle ne va vraiment pas dans cette direction de l'impossible ou de la possibilité d'aller vers l'impossible, d'aller vers l'ouverture dans l'imaginaire et l'impossible du savoir, d'autres mondes possibles. Ça, vous le réservez pour la fiction ?
Peut-être, ou en tout cas, et tout mon geste philosophique consiste à penser que si on veut penser jusqu'au bout l'indistinction, justement pas l'indistinction, mais l'égalité du réel, de l'imaginaire, de l'impossible, etc. Il y a quand même un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est une distinction. Et cette distinction, à mon sens, c'est le fait qu'effectivement, je réserve au formel, au plan formel, tout ce qui est de l'ordre de l'impossible, du fictif, de l'imaginaire, en tant que l'impossible, le fictif, l'imaginaire vont être considérés comme ayant un statut ontologique égal au réel. Et il me semble en effet, il ne me semble pas viable pour la pensée d'introduire cette égalité ontologique dans les deux points de vue. C'est très important pour moi de penser l'idée de prix à payer. Le prix à payer pour arriver à penser, à mon sens, le plan d'égalité du fictif et du réel, c'est d'arriver à penser un autre plan, un plan où ils sont distincts et où ils sont hiérarchisés. Donc effectivement, je ne crois pas aux pensées qui penseraient exclusivement l'égalité, l'égale dignité ontologique, par exemple, du fictif et du réel. Je pense que toute pensée est obligée à un moment de les classer. Par exemple, vous parlez de monde possible. Moi, ça m'embête parce que les pensées des mondes possibles, je sais pas, chez David Lewis, par exemple, sur la pluralité des mondes, qui est quand même le grand penseur depuis les années 70 des mondes possibles, qui tient ce qu'on appelle le réalisme modal, c'est-à-dire grossièrement l'idée selon laquelle tous les mondes possibles, le monde dans lequel nous ne sommes pas en train de parler dans un micro, mais par exemple, j'en sais rien, y compris dans une carotte, ce sont des possibilités qui ont une réalité égale à la possibilité actuelle, le fait que je suis en train de parler dans un micro, simplement elles ont lieu dans un autre monde, dans un monde possible. Et tous les mondes possibles sont également réels. C'est des pensées qui me gênent parce que c'est des pensées qui là aussi promettent en fait de donner un statut très fort au fictif. Il y a un monde dans lequel Sherlock Holmes est un personnage réel, dans lequel Sherlock Holmes vit ses aventures et c'est réel, hein. C'est un monde possible. Le monde de fiction correspond à un monde possible qui a donc un degré de réalité qui est le même que le nôtre, mais qui est un autre monde. Sauf que je trouve qu'il y a un geste, je dirais presque bourgeois, en fait, dans la théorie des mondes possibles, qui consiste à classer dans des cases les possibilités. Et à dire, au fond, de la même manière qu'on classe des chaussettes, on va classer les possibles. Et chacun est bien dans son monde. Et donc, on accepte dans un premier temps le fictif ou l'impossible, mais c'est pour les classer, et c'est pour les ordonner, et bien les ordonner. Et au fond, je pense que mon geste va plus loin philosophiquement, parce que c'est une manière de dire, non, il y a un plan égal sur lequel je peux penser l'impossible, le fictif, que Sherlock Holmes est une personne réelle, que je suis en train de parler dans autre chose qu'un micro, ou la possibilité de quelque chose d'inconcevable, etc. Et je peux penser leur égalité, et je peux les penser dans un seul monde. Donc mon geste me paraît plus radical, en fait, que les mondes possibles. Mais pour autant, aussi radical soit-il, je pense que je suis obligé de penser à un autre régime aussi. Je ne peux pas me contenter du régime où je pense l'égalité de l'impossible, du fictif et du réel. Il me faut autre chose, et c'est le rôle que joue le plan objectif de la pensée.
Oui, parce que il y a tout ce petit chapitre sur qu'il est vain de distinguer les choses matérielles de celles qui ne le sont pas, où vous essayez de vous en sortir de cette distinction entre une pierre et un homme. Et je vous cite, il y a une difficulté à un moment donné à distinguer l'homme de la pierre. Alors que avec un concept d'action ou de fiction, et c'est là où je n'ai pas trouvé cette hypothèse, on distingue l'homme et la pierre facilement. La pierre ne fait pas de fiction. L'action et la fiction va séparer, déterminer la pierre de l'homme. Et vous êtes resté dans ce, pour aller jusqu'au bout de votre pensée de la chose, avoir du coup cette difficulté à séparer la pierre de l'homme.
Alors, je ne serais pas d'accord sur ce point, et je serais assez proche de quelqu'un qu'on a cité au début de l'entretien, qui est Graham Harman, sur ce point. Par exemple, si je pose la pierre sur la table, Je dois concevoir que, contrairement à la majorité des pensées du XXe siècle, qu'on conçut l'idée selon laquelle un objet inanimé n'avait pas de monde. Moi, je pense d'abord que la pierre a un monde, tout simplement parce qu'elle est dans le monde. Deuxièmement, je pense aussi que la pierre a un rapport, entre dans un réseau de relations avec d'autres objets, par exemple la table sur laquelle elle est posée, et mieux, elle entre dans un certain nombre de rapports avec des qualités de ces objets. Ce qui fait que, par exemple, la pierre va avoir rapport avec le dessus de la table, mais pas forcément avec le dessous. Qu'elle va avoir rapport avec un certain profil de la table, et pas la table dans sa totalité. Qu'elle va avoir un rapport avec le poids de la table, qu'elle va avoir rapport avec la masse de la table, qu'elle va avoir rapport avec la rugosité de la table, de telle sorte que la pierre entre en contact, en fait, avec la table, et que la pierre n'est pas... en tant qu'objet inanimé dans un monde indifférencié, mais elle est en contact avec des qualités précises des objets à côté d'elle. Et de ce point de vue, je soutiendrai le fait que la pierre, de même qu'un homme, est capable d'abstraction, au sens strict. C'est-à-dire qu'elle est capable d'entrer en contact avec certaines qualités précises d'autres choses. Elle n'entre pas de manière indifférenciée en contact avec tout et n'importe quoi. Non, elle est en contact avec des qualités de la pierre et pas d'autres. Par exemple, la pierre n'est pas en contact avec la couleur rouge, disons, de la table. Donc elle est capable d'abstraction, elle est capable d'entrer en contact avec certaines qualités des choses et pas d'autres. Et pour moi, cette capacité d'entrer en relation de toute chose, et qui est aussi une capacité d'abstraction, c'est le début de la fiction. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que je pourrais soutenir l'idée extrême selon laquelle, pour moi, les objets inanimés ont une capacité à fictionner le monde. Tout simplement parce que je vais soutenir le fait qu'ils ont un monde. Alors, je dirais que c'est pas un monde sensible au sens où ils n'ont pas de système nerveux, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de cortex, ils n'ont pas de etc., etc. Donc, mais ce qui est important pour moi, c'est de dire que je ne peux pas, de mon point de vue, faire passer un rift, une différence ontologique absolue entre certaines choses, par exemple les êtres humains, et d'autres, par exemple les pierres. Tout le but de mon travail est de montrer qu'il va y avoir des différences effectivement entre la pierre et l'homme, mais ça va être des différences d'intensité. Donc ce que je dirais, c'est que pour moi il y a déjà en quelque manière de la fiction à l'œuvre chez la pierre, simplement elle va être plus intense chez l'homme. Il va y avoir une capacité à intensifier cette capacité d'abstraction et de mise en fiction du monde chez une certaine espèce parmi d'autres, capable de sensibilité, de pensée, enfin de certaines facultés cognitives qu'on appelle l'espèce humaine. Donc en tout cas, dans mon travail, je me situe dans des lignes de pensée où, à mon sens, il n'est pas possible de faire passer un rift ontologique entre certaines choses et d'autres, entre l'espèce humaine et les animaux, mais entre, même plus largement, les êtres sensibles, par exemple, et les pierres.
Ce qui nous permet d'arriver à cette suite de questions que j'aurais à vous poser sur humain. Donc là, on est ouvertement dans la deuxième partie de votre livre, objectivement, où là, des grands philosophes sont cités. C'est là où c'est presque l'application, enfin, grossièrement l'application, et qui découle par univers, objet, événement, temps, vivant, animaux, humains, jusqu'à la mort. Donc c'est là où vous faites une grande trame de tous ces objets conceptuels, les grands objets conceptuels qui nous composent. Et donc dans humain, et c'est là où ça pourrait rejoindre cette question un peu tirée par les cheveux que je vous ai posée, Tristan Garcia, sur la différence entre une pierre et un homme, et vous avez parfaitement raison dans votre réponse. On en arrive à humain. Une partie que j'ai lue avec une attention particulière, déjà parce qu'elle est assez, assez longue, et il y a ce petit bout de chapitre, ce vers quoi va l'humain, l'intelligence artefactuelle, où vous allez assez rapidement éluder la question, non pas du transhumanisme, mais de la transformation de l'homme. Pourquoi ne pas avoir approfondi cette question ?
Alors, pour moi, effectivement, c'est peut-être une question que je traite un peu trop en passant. C'est une question assez importante pour moi, mais c'est une question qui se situe dans un problème plus large pour moi, que j'aborde déjà dans le chapitre consacré à l'animalité, qui est un problème, à mon avis, décisif dans l'histoire de la pensée à partir du 19e siècle et à partir de la victoire du schéma évolutionniste, hein, parce qu'il n'y a pas de transhumanisme s'il n'y a pas d'évolutionnisme, hein, s'il n'y a pas Darwin et Lamarck, il n'y a pas de transhumanisme, ça n'a aucun sens. Et donc, le terreau commun de ces pensées, qui à mon avis est fondamental, c'est la désintégration du concept d'espèce au sein des catégories classificatoires. Dans les catégories classificatoires de la pensée classique, l'espèce joue un rôle fondamental, comme le genre, qui aussi a implosé pour des raisons politiques, hein, qui sont différentes, on en parlera peut-être. L'espèce a implosé parce que c'était par excellence l'outil classificatoire qui permettait de penser le découpage du vivant et le découpage de l'humanité au sein du vivant sous forme d'objets. Et les découper sous forme d'objets, c'était s'assurer de leur stabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on disposait du concept d'espèce, on était sûr, même si on avait une pensée transformiste, qu'il y avait une relative stabilité de l'objet humanité. De même qu'il y avait une relative stabilité de l'objet canin ou de l'objet félin, etc. etc. Or, ce qui se passe, qui est fondamental à partir du 19e siècle, c'est qu'il y a une contamination des catégories de classification objective par des catégories de classification événementielle, où l'espèce est remplacée petit à petit par la spéciation. On pense le devenir du vivant sur le modèle évolutionniste, donc sur le modèle d'un changement permanent, plus en termes d'objets, mais en termes de processus, de procès, d'événements. De telle sorte que, petit à petit, au XXe siècle, le terme d'espèce va perdre complètement son intérêt scientifique. On va parler de spéciation, et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le travail de gens qui font de la phylogénétique, de la classification phylogénétique, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Ça va être une sorte de nœud à un moment, hein, de clade sur une sorte de ligne, comme une ligne d'univers en fait, qui est en changement permanent. Et au fond, le transhumanisme ou la question de la transformation de l'humanité, c'est juste la prolongation de la ligne en disant, dans la mesure où de toute manière tout ce qui est vivant, et l'humain n'échappe pas à ça, est pris dans un processus de spéciation. Espèce humaine ne veut rien dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est, sur le modèle de spéciation, un processus d'humanisation ou d'anthropologisation continue. Et donc, il n'y a pas de raison de considérer que le point où nous en sommes de ce processus d'humanisation, d'anthropologisation, est l'essence de l'homme. Il n'y a évidemment plus d'essence, plus de substance, on est pris dans un processus, et on peut tout à fait continuer à en pointiller et se poser la question du mode de transformation de l'homme par l'homme. Or, ce qui est assez important pour moi, c'est qu'avec mes catégories, j'essaye de montrer que, à mon sens, il demeure une naïveté de ce type de ce type de pensée. Cette naïveté, elle est double. Elle repose d'abord sur le fait qu'on ne voit pas qu'on continue de projeter sur ce schéma apparemment moderne de la spéciation, de l'évolution, un schéma qui en fait est éminemment archaïque, où on dédouble l'homme, et il y a d'une part l'homme-dieu qui est l'homme qui se fait, et de l'autre part l'homme-créature qui est l'homme qui est fait et qui est transformé. Et donc, sous l'apparence d'une modernité de ces schémas, moi je lis souvent dans le transhumanisme des pensées mythiques et archaïques, qui me gênent un peu parce qu'elles sont naïves sur ce point, hein, c'est-à-dire que leur scientisme rejoint une forme mythologique qui me semble pas très claire. La deuxième naïveté, à mon sens, c'est qu'elles pensent s'être totalement débarrassées des catégories classificatoires, alors qu'elles s'en débarrassent pas du tout. En fait, il est encore bien question d'une forme d'humanité sous forme d'objet. Il y a encore des boîtes, il y a encore de la classification à l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'on n'arriverait pas à penser jusqu'au bout une pure spéciation. Il ne faudrait pas parler de post-humanisme à ce moment-là. Il faudrait simplement être vitaliste et penser une ligne continue de transformation de la vie. Et même, au-delà de ça, il faudrait penser le processus continu de transformation physico-chimique, qui n'est même plus du transhumanisme, mais ce qui va de l'inerte, en passant par l'inanimé, puis l'animé, puis quelque chose qu'on appelle humain, mais qu'on ne peut même pas nommer, qui est juste extrêmement éphémère sur la ligne de spéciation et de transformation, et qui va vers le divin. Et en fait, on a plus, dans ces cas-là, dans ce type de schéma, de moyen de découper ce qui va de l'inerte au divin. Dans ce cas-là, ça me va, si cette pensée assume ça, une sorte de ligne continue entre la pierre et le divin, mais je vois pas pourquoi on parlerait encore de transformation de l'humain par l'humain, puisqu'on peut même plus découper ce qu'on appelle humain sur une ligne de transformation continue.
Et mon reproche, justement, c'est d'avoir peut-être trop pris en compte, trop pris au sérieux ce discours transhumaniste, et de ne pas avoir pensé jusqu'au bout vos catégories, en prenant en compte non pas le discours des transhumanistes, mais les possibilités techniques, les capacités de la science, parce que vous affirmez quand même que nous n'existons humainement qu'entre l'artificialité et entre l'animalité. Or, les possibilités que nous offre actuellement la technoscience, c'est presque de se débarrasser de cette catégorie entre et de faire entrer justement de l'artificialité dans l'humanité. Et du coup, là, mon reproche, c'est de pas avoir d'avoir pris trop au sérieux les discours transhumanistes. Hein. Est-ce que vous le concevez et du coup de ne pas avoir poussé votre pensée jusqu'au bout, par exemple en n'ayant pas été assez attentif au cyborg?
C'est possible. C'est vrai, je reconnais tout à fait que c'est quelque chose qui est traité de manière marginale dans le livre. Le point de méfiance simplement que j'ai en général, mais qui est insuffisamment développé, c'est qu'il me semble que... j'ai peur qu'on oublie dans les pensées de la pure artefactualité, qu'on oublie la part d'animalité. Et inversement, j'ai peur dans les pensées qui ramènent uniquement l'humain vers l'animalité, qu'on oublie la part d'artefactualité. Et inversement, troisième possibilité, j'ai peur dans les pensées strictement humanistes qu'on coupe l'humain et de l'artefactualité et l'animalité. Et d'une certaine manière, ce que je dis n'est pas très fort sur ce point, ou c'est pas un geste très fort, c'est simplement de dire que qu'on fasse un geste dans n'importe laquelle des directions, vers l'artefactualité, vers l'animalité ou vers un recentrage de l'humain sur l'humain lui-même, un geste humaniste classique, on oublie la part de compensation qu'il y a dans ce geste. C'est-à-dire que dans quelques directions qu'on aille, en allant dans cette direction, on compense l'autre direction. Donc, moi, je ne suis pas du tout opposé aux pensées d'une manière générale, la transformation de l'humain, de l'artefactualité, de l'humanité de l'objet technologique et de l'humanité elle-même, des technologies de transformation de l'humain. Simplement, elle me semble naïve à partir du moment où elle décide vraiment de penser l'humain comme une tabula rasa et de faire comme si c'était un matériau pur, au fond. Comme si, à partir de maintenant, c'était un matériau pur. Inversement, les pensées strictement des origines animales de l'humanité et qui renvoient comme à un destin, comme à une fatalité, l'humain à son animalité, me semblent faire table rase aussi tout simplement de la réalité de l'artefactualité, de la capacité de l'humain à produire des artefacts et à se produire lui-même comme artefact. Mais voilà, ce que j'essaye de dire simplement, c'est qu'on ne peut pas oublier dans chacun de ces gestes radicaux, il y a une compensation. Il y a un effet de compensation.
C'était pour finir la boucle sur voilà, cette citation sur l'impossible, le vrai, le faux, le mauvais, sur justement ce concept de n'importe quoi, où voilà, j'attendais à une extrême utilisation du concept de n'importe quoi jusqu'à l'étirer à ses considérations. C'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Peut-être du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous voudrez continuer par la fiction? À la fin de votre livre, parce que je me dis que la fiction peut être un autre moyen d'écriture de continuer votre métaphysique. Je trouve au chapitre histoire, donc on est plus vers la fin, des considérations vraiment passionnantes. Et justement, j'ai relu votre deuxième œuvre de fiction, Mémoire de la jungle, et je les ai mis presque en correspondant, puisque Mémoire de la jungle, c'est une fiction qui va vers le futur, alors que votre première fiction était une fiction du passé. Donc vos deux œuvres de fiction publiées, c'est une fiction La meilleure part des hommes, une fiction du passé, et Mémoire de la jungle, qui est une fiction du futur. Et je vous ai lu en correspondance parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue chez vous, d'être à la fois philosophe, théoricien, métaphysicien et romancier.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est juste. En effet, Il y a sans doute un lien entre ce que j'essaye de penser sur l'histoire et les deux directions, la direction du premier roman qui était en effet orientée vers un retour vers un passé, même si c'était un passé proche, ou dans les limbes entre le passé et le présent, et le deuxième qui était aussi dans les limbes entre présent et avenir, et l'un qui était clairement une littérature orientée vers le réel, et l'autre une littérature orientée vers le possible. Le deuxième accélérer le possible, alors que le premier le ralentissait pour essayer de trouver un sens du réel ou de l'époque. Après, j'ai une sorte de vieille peur adolescente, que peut-être j'arriverai jamais à conjurer, qui est, j'ai toujours eu l'impression, à partir du moment où j'arrivais à théoriser quelque chose, de plus pouvoir réussir à le faire. J'ai toujours en tête ce sentiment que si j'arrivais à avoir très précisément en tête tout ce qui se passait lorsque je marche, à considérer instantanément la mécanique de ma marche, tout ce qui se passe entre mes muscles, mes cartilages, etc., je m'écroulerais, je ne parviendrais plus à marcher. C'est une sorte de peur que j'admets irrationnelle, mais que j'applique complètement à mon travail. Et donc je sais, je me méfie énormément de la tendance que je vais avoir à interpréter ou à théoriser ce que je veux faire en fiction, et j'essaye de le faire le plus à l'aveugle possible. Et même j'essaye d'accumuler des ruses pour essayer le moins possible de théoriser ce que je suis en train d'écrire, parce que ça me terrifie, mais d'une manière que... Voilà, je pense que c'est une croyance irrationnelle, ou un résidu de croyance irrationnelle. Donc j'avais pas pensé du tout à ce que vous dites, et je trouve ça très juste. Et je pense aussi, je suis pratiquement certain que si je l'avais pensé avant de l'écrire ou en l'écrivant, j'aurais mis de côté le livre ou j'aurais essayé de faire autre chose. Et c'est très bête, mais je crois que j'essaye de regagner par la fiction quelque chose qui me manque dans la théorie ou dans la philo en général, qui est une forme d'inconscience et qui est tout simplement la capacité à marcher. Et pour reprendre l'image que je prenais, je crois que quand je fais de la théorie, je m'assois et j'essaie de savoir comment ça marche, et je sais que j'arriverai pas à marcher dans ces cas-là, mais je sais aussi qu'il faut marcher, et dans ces cas-là je me lève et j'essaye le plus possible d'oublier comment je marche. Ce que j'admettre un système, une sorte de système alternatif où peut-être à un moment ça marcherait pas et je tomberais, mais j'essaye de fonctionner comme ça. Et donc au moment où j'écris de la fiction, j'essaye, mais vraiment par tous les moyens, de m'empêcher le plus possible de savoir ce que je suis en train de faire. Ça marche pas toujours, mais j'essaie de le faire. Mais j'ai tout un tas de ruses ou de méthodes personnelles pour ruser avec moi et pour me cacher hors de portée de mon propre regard.
Merci beaucoup, Tristan Garcia. On est revenu à ma première question. Je suis très heureux d'avoir fait cette boucle. Merci beaucoup, Tristan Garcia.
Merci infiniment.